Et puis donc pour rebondir sur la question de tout à l'heure de Jonas pour voir si Intel est une start-up assez typique, j'ai repris donc les données. Fin 1968, ils étaient 42 salariés, donc à la fin d'une première année qui n'est même pas tout à fait complète, hein. Donc on voit bien qu'on est sur une pente d'embauche importante. Fin 1969, 160 salariés. 1970, 211. 1971, 460. Donc ça donne une idée de la pente de croissance en termes de recrutement. Et puis ce qui est assez typique, mais on va en parler après, c'est aussi l'aspect financier. Donc en 1968, chiffre d'affaires 0 euro, dollar. Recherche et développement 300 000 dollars et résultat net des pertes de 400 000 dollars. L'année suivante, chiffre d'affaires 400 000 dollars, recherche et développement 1,3 million et résultat net des pertes de 1,9 million. En 70, 4 millions de chiffre d'affaires, donc là on voit que ça commence à 1 million de pertes. Pour 1,3 million de recherche et développement, c'est stable. Et puis en 71, 9 millions de chiffre d'affaires, première année bénéficiaire, plus 1 million, et recherche et développement, 1,5 million. Donc là, on est rentré dans des normes tenables en termes de pourcentage de R&D par rapport au chiffre d'affaires. Donc là, même si la croissance va se poursuivre à un rythme extrêmement élevé, hein, par la suite, néanmoins, à partir de ce moment-là, on est passé sur une entreprise qui génère des capacités d'autofinancement, etc. Donc voilà pour le côté start-up et croissance. Alors, je reviens donc à notre structure organique. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, Burns et Stoker? Bon, déjà, leurs conclusions vont venir d'une étude qu'ils ont menée auprès d'une vingtaine d'entreprises anglaises et écossaises à un moment donné où le gouvernement britannique et puis le Parlement écossais vont décider d'essayer de favoriser l'adoption par les entreprises donc anglaises et écossaises de l'électronique. C'est le champ émergent de l'époque, hein. On est à la fin, je ne l'ai pas précisé, on est à la fin des années 50. Leur étude est très célèbre en théorie des organisations parce qu'en fait, ils vont montrer qu'il y a un lien entre l'instabilité de l'environnement et le rythme du changement technique d'un côté et le type de structure utilisée par les entreprises de l'autre. Et donc, ça va être une des premières contributions que l'on va considérer comme étant à la base de ce qu'on appelle l'approche contingente des organisations. L'approche contingente des organisations, c'est tout un courant qui met l'accent sur le fait que il n'y a jamais une seule voie en management qui est meilleure dans toutes les circonstances, mais qu'il faut adapter alors les structures, les modes de management, etc., au contexte dans lequel on évolue. Donc, l'auteur le plus célèbre qui se situe dans la continuité de cette approche contingente, c'est Mintzberg. Alors nous, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est justement ce côté rythme du changement technique et du coup, qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation. Donc, ce qu'il constate, c'est que ces entreprises-là, et notamment certaines d'entre elles étaient des entreprises assez anciennes, pas spécialement en pointe en matière technologique. Et donc, ce qu'il constate, c'est que ça, elle fonctionne sur la base de ce qu'on appelle la bureaucratie en théorie des organisations, qui n'est pas nécessairement un terme péjoratif, hein, en théorie des organisations. Ça veut dire qu'on est dans une structure formalisée avec des délégations de responsabilités en cascade, généralement structurées autour des compétences et avec une ligne hiérarchique qu'il faut suivre de manière assez stricte. Donc ça veut dire ça, hein, une entreprise bureaucratique. Encore une fois, il n'y a pas forcément le côté péjoratif qu'on associe en général au terme de bureaucratique. Mais il constate que, confronté à l'instabilité du secteur de la technologie, beaucoup de ces entreprises, et notamment celles qui s'en sortaient le mieux, n'appliquaient pas du tout les bons principes de management de l'époque, hein, parce que en plus la bureaucratie classique, on est à l'époque où on applique beaucoup l'organisation scientifique du travail dans les ateliers, quelque part directement ou indirectement, le mode de management préconisé par Fayol est dominant, même s'il y a quelques études qui justement contestaient ça en disant qu'en laissant plus d'autonomie aux salariés, on obtenait une meilleure motivation et donc de meilleurs résultats. Ce qui explique d'ailleurs le côté, il y avait un peu deux camps, hein, les tenants de l'approche par les relations humaines et les tenants de l'organisation scientifique du travail, et une étude comme celle de Burns et Stoker va un peu, pas réconcilier, mais va montrer que pourquoi dans certains contextes, effectivement, des approches avec beaucoup plus de délégation de responsabilité fonctionnaient mieux, alors que dans d'autres contextes, un fonctionnement plus classique, plus formalisé, allait mieux fonctionner. Alors eux, ce qu'ils constatent notamment dans les départements de R&D créés spécifiquement pour travailler sur l'électronique, donc qui souvent ont été créés un peu à part du reste de l'activité de R&D de l'entreprise qui est plus stable, c'est que dans ces structures-là, déjà tous les salariés, ce qui n'avait rien d'évident à l'époque, était capable de situer son rôle par rapport aux objectifs de l'organisation. Hein, et donc avait cette vision globale, un peu système, de où il se situait dans l'organisation. Hein, or ça, même encore aujourd'hui, alors que les entreprises y sont beaucoup plus attentives qu'à l'époque, notamment c'est une des sources de démotivation dans les grandes entreprises, hein. Ok, je suis qu'un tout petit maillon quelque part et je comprends pas vraiment quel est mon rôle par rapport à l'ensemble. C'est aussi ce qui fait que beaucoup de jeunes de votre génération sont plus attirés par le monde des startups que par le monde des grandes entreprises. Ces activités sont elles-mêmes instables, c'est-à-dire qu'en gros, quand ils interrogent des personnes, au lieu de dire ma fonction c'est directeur de tac tac tac, directrice de tac tac tac, c'est plutôt en ce moment je coordonne tel projet. Donc vous voyez, il y a toujours un côté temporel et temporaire. Normalement, on dit toujours du bon management, hein, c'est bien clarifier les responsabilités de chacun, hein, mettre la bonne personne à la bonne place. Hein, non. Non, en fait, là, il y a assez souvent des responsabilités qui se recoupent en partie. C'est-à-dire, on va interroger deux personnes et les deux vont dire qu'ils ont un rôle important, un rôle de coordinateur de ce projet-là. Alors du coup, ils sont deux à se dire coordinateur du même projet, ce qui est un peu déstabilisant par rapport à ce que préconise une organisation, on va dire, rationnelle du travail. Les communications sont structurées en réseau. Alors ça, c'est moins surprenant dans les organisations actuelles où on a de toute façon, en général, quand même, mis un peu de souplesse dans les modes de communication entre les salariés. Mais il faut bien voir, et c'est pas encore, comment dire, ce que je vais dire là n'est pas complètement sorti des organisations, hein, ça reste encore largement vrai. Dans la logique d'une bureaucratie, si vous êtes le supérieur hiérarchique d'un ensemble de personnes, vous êtes responsable de la répartition du travail entre ces personnes. Ça ne vous surprendra pas. Donc ça veut dire que il ne faut pas que des personnes les sollicitent sans même que vous soyez au courant. Parce que sinon, par exemple, s'il y a un salarié qui a la réputation de répondre rapidement et sympathiquement aux demandes d'aide, il va être sursollicité et finira en burn-out. Et à côté, les autres salariés seront sous-utilisés parce qu'on ne pense pas à les appeler. Et donc, c'est effectivement, vous, votre rôle en tant que supérieur hiérarchique, de répartir l'activité entre vos subordonnés. Mais ça implique, du coup, que l'on vous contacte, vous, pour pouvoir faire appel à l'un de vos subordonnés. Ce qui, évidemment, crée un circuit où, si vous avez besoin d'avoir recours au service de quelqu'un dans un autre service, vous allez en référer à votre supérieur hiérarchique, qui va en référer à son collègue, qui va attribuer la tâche à quelqu'un. Et évidemment, c'est beaucoup plus long et beaucoup moins souple que de passer un coup de téléphone à quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'en pratique, quand il s'agit de tâches relativement rapides, aujourd'hui, on ne va pas s'offusquer qu'on ait pu appeler à un moment donné quelqu'un sans passer par son supérieur hiérarchique. Quand il s'agit de tâches plus significatives, ça peut toujours poser problème. Et dans les organisations donc, dans lesquelles on n'appliquait pas les principes du management formalisé classique, eh bien, tout le monde court-circuite tout le monde. D'ailleurs, j'ai relu il n'y a pas longtemps justement une anecdote assez amusante, je trouve, sur Intel à ses débuts. L'anecdote, c'est un jeune ingénieur qui vient d'être embauché chez Intel. Il est là depuis 3 jours et il croise le PDG, Bob Noyce. Et donc, il lui dit, pour mieux comprendre un petit peu le fonctionnement de l'entreprise, Bob, est-ce que tu pourrais me donner, est-ce que tu aurais un organigramme d'Intel? Et Bob Noyce voit une porte ouverte vers une des salles avec un tableau. Donc il lui dit viens, rentre. Et puis il prend une craie. Hein, à l'époque, c'était des craies. Et il dessine sur le tableau un X. Puis il dessine des X tout autour. Et puis il lui dit voilà. Il montre le X du milieu. Il dit ça, c'est toi. Et puis. Il montre les autres X, ça c'est Gordon, ça c'est moi, ça c'est. Alors je n'ai pas retenu les noms, hein, mais. Et il cite comme ça les noms de toute une série de cadres de l'entreprise. Donc en fait, il montre bien que il n'y a pas d'organigramme au sens où on l'entend habituellement. Et où donc, quand on a besoin de demander quelque chose à quelqu'un, on demande à la personne en question. Dans ce type de structure également, on va beaucoup valoriser la contribution aux avancées et donc aussi les initiatives, quitte à ce que on fasse des choses qu'on ne nous a pas demandées et quitte à ce qu'on fasse plutôt moins bien ce qu'on nous a demandé. Alors, il ne faut pas aller trop loin quand même, il ne faut pas caricaturer, mais alors que dans une bureaucratie classique, on vous demande avant tout de faire ce qu'on vous a demandé de faire. Après, si en plus vous voulez prendre quelques initiatives intéressantes, tant mieux, hein. Là aussi, il ne faut pas caricaturer. Toutes les entreprises, enfin la plupart, encouragent plutôt l'initiative. Mais bon, c'est une fois que vous avez fait ce qu'on vous a demandé. Et puis, si c'est des initiatives qui nécessitent de mobiliser d'autres ressources que vous-même, là, on va avoir un circuit pour demander une autorisation. Là, dans le cas de ces structures-là, ce qu'on appellerait, vous avez probablement déjà entendu cette expression-là dans les organisations, ce qu'on appellerait des électrons libres, sont plutôt valorisés. Donc même s'ils sont un peu désobéissants, ce n'est pas le plus important. Et donc, c'est ce type de structure-là qu'ils vont appeler des structures organiques parce que pour eux, ça leur rappelle davantage le fonctionnement d'un organisme vivant. Vous voyez, il y a beaucoup d'autorégulation par opposition aux structures qu'ils appellent mécanistes, qui correspondent aux structures bureaucratiques, qui sont plus conçu sur le mode d'un ensemble d'engrenages qu'on met bien les uns à côté des autres pour que, quand on décide de lancer quelque chose dans une direction, eh bien, tout le monde après aille dans la même direction. Donc il y a plutôt cette image de la machine qu'ils associent à la structure bureaucratique. De fait, on comprend à peu près pourquoi les structures organiques sont avantageuses pour innover. Donc, d'abord, elles permettent de multiplier les interactions entre les personnes, y compris des personnes qui n'ont pas tout à fait le même profil, pas les mêmes compétences. Ce n'est pas un concept très connu, mais il se trouve qu'un peu par hasard, quand j'avais lu enfin, c'est un article que j'avais lu, c'était une traduction d'un article de la Harvard Business Review, assez ancien. Et j'avais trouvé ce concept très parlant. Les auteurs parlaient de friction créative, qui est liée justement à cette rencontre de logiques différentes. Donc comme les logiques sont différentes, on ne se comprend pas tout de suite, ça peut créer un peu de tension, ça peut, voilà, d'où le côté friction. Mais en même temps, c'est souvent de la rencontre de logiques différentes que naissent les idées les plus originales. C'est d'ailleurs vrai quand il y a un seul inventeur ou une seule inventeuse, ça reste assez vrai parce qu'il y a eu des études qui ont montré que les inventeurs dits prolixes, ceux qui avaient inventé beaucoup de choses, assez souvent, là encore, c'est pas toujours de façon, mais étaient bien sûr experts de leur domaine, mais souvent avaient d'autres passions et du coup, croisaient un peu la logique de leur domaine et la logique de d'autres éléments. En tout cas, étaient ouverts à d'autres formes de raisonnement qui n'étaient pas le mode de raisonnement dominant dans leur discipline. Ce qui marche dans le cerveau d'une personne peut aussi marcher quand vous faites se rencontrer des cerveaux différents. C'est pour ça qu'on considère en général que la diversité est un élément positif pour l'innovation. Deuxième aspect, puisque de toute façon les personnes savent qu'elles sont sur un projet à un moment donné, mais pour elles, il est normal dans une structure comme ça de se dire que c'est temporaire, que c'est le temps du projet. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus simple comme ça de réagencer les personnes, par exemple de re-répartir les personnes de l'équipe, module multipus, entre les deux équipes. Schottky bipolaire et Moss, parce que de toute façon, voilà, et ils n'étaient pas dans une optique où elles allaient rester 5 ans au même poste. Hein, pour eux, c'était normal, elles étaient actuellement sur ce projet-là. Donc, du coup, c'est une organisation, ce qu'on appelle aujourd'hui une organisation en mode projet, hein, elle est naturelle dans la structure organique. D'ailleurs, ce qui ressemble le plus à la structure organique chez Mintzberg, si vous connaissez les configurations de Mintzberg, il appelle ça une structure adocratique. Ça vient de ad hoc, quelque chose qui est ad hoc, c'est quelque chose qui est fait spécifiquement pour un but particulier, pour un contexte particulier. Donc il y a bien cette idée de la structure qui est adaptée à un objet à un moment donné. Et puis par ailleurs, ça se rejoint avec le concept de friction créative, c'est que par ailleurs, comme les responsabilités sont pas réparties avec des frontières extrêmement claires, du coup, on est quand même un peu obligé de discuter, quand on est deux à coordonner un projet, on est quand même obligé de se coordonner soi-même en premier, et du coup, on va plus échanger. Et donc, si vous avez des personnes qui ont des profils différents, Eh bien, elles vont forcément essayer, enfin, si en tout cas elles ont un minimum d'ouverture, elles vont essayer de comprendre la logique de l'autre, de comprendre le vocabulaire de l'autre, etc. Si bien que peu à peu, elles vont elles-mêmes enrichir leur base de compétences, alors pas au même niveau d'expertise que l'autre personne dans son domaine, mais au moins elles comprendront davantage. Et du coup, bah, ça réduira un peu le côté négatif de la friction et permettra plus facilement éventuellement d'associer des idées qui viennent de logiques différentes. Enfin, bah, là, c'était presque dans la définition que j'ai donnée hein, de la structure organique. Hein. On valorise beaucoup l'expertise et les initiatives, beaucoup plus que l'obéissance. Or, il a été montré, hein, Norbert Alter, c'est un sociologue de l'innovation, ce n'est pas le seul à l'avoir montré, hein, mais que bien souvent, l'innovation vient de comportements qui, quelque part, ne sont. Alors, déviant, souvent, on dit. Enfin, ça a plutôt une connotation négative, mais lui, ce qu'il dit, c'est que souvent, c'est voilà, des personnes qui n'obéissent pas aux règles, qui. On leur dit, bah non, arrête, bah, ils continuent quand même. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. On avait d'ailleurs évoqué, lorsqu'on avait évoqué le choix des. Enfin, le fait qu'il fallait laisser des espaces d'exploration dans des structures qui étaient largement structurées pour l'exploitation, on avait indiqué que parmi les éléments qui pouvaient concrètement servir à ça, il y avait le fait qu'il y ait une certaine tolérance pour les projets dits en perruque. Et un projet en perruque, c'est un projet justement qui n'a pas été approuvé par la hiérarchie. Alors, si on s'arrêtait là, on pourrait se dire, eh ben voilà, c'est génial. En fait, depuis 1961, puisque leur ouvrage est quand même sorti en 1961, donc il y a presque 64 ans, hein, eh bien, on avait déjà la recette pour faire des entreprises innovantes. Et donc, aujourd'hui, tout le monde veut être innovant. Donc, on se demande vraiment pourquoi on ne se contente pas d'appliquer la recette, entre guillemets, et pourquoi bah, toutes les entreprises ne sont pas des structures organiques. La raison, vous l'avez deviné, c'est que bah, ça fonctionne très bien quand on est 10, 12, 15. Là, on voit que chez Intel, au début, ils sont j'ai dit 42 à la fin de l'année 1968. Donc, ils sont encore trois équipes. Ça veut dire que les équipes sont des équipes de 10 ou 15, même plutôt, oui, c'est ça, 10-12, parce qu'il y a forcément un tout petit peu de personnel administratif. Et puis, il y a Bob Noyce et Gordon Moore qui sont au-dessus du lot. Enfin, bon. Du coup, bah on voit bien qu'à 10-12, on peut tout à fait se coordonner de façon informelle. On n'a pas besoin de structurer des circuits de décision, etc. Quand au bout de 4 ans, ils sont 460, là, ça peut poser davantage de problèmes. Je pense qu'on le voit assez bien. D'ailleurs, le même auteur qui cite l'anecdote avec les X hein, à la place de l'organigramme souligne le fait que c'est un des grands atouts d'Intel et qu'ils ont essayé de garder le plus possible quand même cette structuration la plus organique possible, mais qu'à un certain moment quand même, ça avait créé des tensions parce que par exemple, puisqu'il n'y a pas de circuit établi, il y a pas mal de personnes qui ont repéré le fait que. Alors, ils avaient quand même des titres, hein, donc au moins au sommet. Donc, au sommet de l'entreprise, il y avait un directeur des opérations qui s'appelait Andrew Grove. Et puis, quand ils se sont mis à fabriquer en série la mémoire, ils ont nommé un directeur de la production. Et ben, il y a beaucoup des ingénieurs de production qui, en fait, bah parce qu'ils avaient repéré qu'il était très compétent, parce que il était docteur en physique, etc., qui allait directement voir Andrew Grove Et du coup, bah, parfois, ils arrivaient avec une solution qui n'était pas celle du directeur de la production. Et donc, quand le directeur de la production arrivait, il disait, mais pourquoi vous faites ça comme ça? Il disait, bah, c'est Andy qui nous a dit de faire comme ça. Donc, vous voyez, quand vous êtes directeur de la production, c'est quand même un peu problématique. Alors, ça devient vraiment encore plus problématique si vous avez donné des instructions à une partie de l'atelier et si vous apercevez qu'il y a une autre partie de l'atelier qui ne fait pas la même chose. Donc, voilà, ça donne ce type de problème-là quand l'entreprise grossit. Au passage, c'est une des causes possibles des crises de croissance que connaissent pas mal de startups, hein. C'est-à-dire que soit elles tardent trop à se structurer davantage. Donc du coup, bah, il y a plein de problèmes de communication comme celui que je viens d'indiquer, et du coup, elles ne sont pas suffisamment efficientes. Et donc si d'autres entreprises arrivent en étant mieux structurées, mieux, bah, elles vont avoir tendance à avoir une production plus fiable, des coûts inférieurs, etc. Et donc, bah, le risque, c'est que la start-up ne soit plus compétitive, toujours innovante, mais plus compétitive en matière de produits. Et donc c'est le premier cas, ça arrive trop tard. Dans d'autres cas, parfois ça arrive trop tôt. On fait à un moment donné appel à quelqu'un qui vient de l'industrie, par exemple, hein, et qui a 30 ans d'expérience. Donc il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? On va mettre un peu d'ordre là-dedans. Et puis, il le fait trop tôt, trop fort. Et du coup, bah, ça tue un peu les avantages de la structure organique. Et puis, vous avez aussi, évidemment, les cas trop brutaux et trop progressifs. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui font que bah, le timing précis, il est extrêmement difficile à bien doser, hein. D'autant qu'après, on peut garder quand même une certaine dose d'organique dans une structure mécaniste. On verra par exemple plus tard que Apple va assez bien réussir à maintenir une structure organique dans le cadre de sa R&D, tout en mettant une organisation en place beaucoup plus formalisée pour la production. Si bien que ça va être une des premières entreprises de micro-ordinateurs à avoir un processus de production à peu près fiable. Alors, l'autre cause de crise des startups, c'est les besoins de financement. Là, ça rejoint un peu les questions de Jonas, hein. On sait, hein, enfin, je ne vais pas vous surprendre, les startups posent des problèmes de financement assez particuliers. Puisque le modèle même de la start-up innovante ou technologique, hein, c'est que pendant une certaine période, elles vont faire de la R&D, finir de mettre au point leur technologie. Alors parfois, ça va prendre 6 mois, parfois 18 mois, parfois, quand c'est un candidat médicament proposé par une biotech, parfois ça va prendre 12 ans avant que le produit arrive sur le marché, s'il arrive sur le marché. Donc ça, c'est très variable, hein. Mais en tout cas, il y a toute une période pendant laquelle on va investir en R&D et puis il n'y a pas d'argent qui rentre. Et puis après, généralement, en tout cas si on fabrique soi-même, eh bien, il y a encore des investissements à réaliser en termes d'industrialisation. Et il faut attendre plusieurs années avant qu'elles puissent autofinancer leurs investissements. Et en même temps, puisque ce sont des projets risqués, et plus c'est une innovation radicale, plus c'est risqué, eh bien évidemment, on ne pourra pas se financer de manière significative par endettement. Ah, on reproche parfois les banques d'être frileuses par rapport au financement de l'innovation, mais pour le coup, c'est normal. En tout cas, pour du financement par endettement, sachant que, alors les taux varient beaucoup, parce que ça varie d'un secteur à l'autre, ça dépend ce qu'on appelle un échec, etc. Mais on va considérer souvent que à peu près 80% des startups vont échouer. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas décemment prêter de l'argent en vous disant que vous avez une chance sur cinq de récupérer, enfin d'être remboursé. Sinon, vous allez dire, bon, ok, mais le taux d'intérêt est de 420%, il risque d'être un peu compliqué. Et du coup, y a trois grandes sources de financement possibles, hein, des investissements. Il y a l'autofinancement, il y a l'endettement, et puis le troisième, c'est l'augmentation de capital, hein, c'est d'aller chercher une augmentation des capitaux propres par les actionnaires. Et donc, c'est ça qui va conduire à ce mode de financement assez spécifique où, souvent, pour pouvoir bricoler les premiers prototypes, etc., on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. On ne lève pas l'équivalent de 15 millions de dollars comme Intel, mais on va mettre quelques dizaines de milliers de dollars ou d'euros dans son projet pour pouvoir le dérisquer un peu. Donc là, à ce stade-là, c'est souvent les créateurs eux-mêmes, s'ils n'ont pas assez d'argent, ils vont faire appel à leur entourage, c'est ça qu'on appelle le love money, et puis parfois quelques business angels qui investissent très tôt. Et puis, peu à peu, ça va être remplacé par des structures, alors qui sont elles-mêmes spécialisées en fonction du degré de précocité à laquelle elles interviennent, hein. Et donc, ce sont des structures qui sont spécialisées dans ce type de financement, avec une logique qui est de dire, je sais que la majorité de mes investissements ne seront pas rentables, mais l'idée, c'est de faire x5, x10, x20, ou voire x50 sur les investissements qui réussissent bien pour compenser toutes les pertes de là où je vais rien récupérer, où je vais récupérer que des broutilles. Et alors ça peut fonctionner parce que à chaque fois que quand vous passez du prototype de laboratoire au prototype fonctionnel, puis qu'ensuite vous passez à l'industrialisation à petite échelle, puis ensuite à l'industrialisation à grande échelle, à chaque fois vous avez des besoins de capitaux de plus en plus importants, mais à chaque fois vous avez aussi un risque qui a un peu diminué. Après, peut-être que vous lèverez effectivement des centaines de millions d'euros. Et là, généralement, c'est pour financer votre croissance. Alors parfois, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était une des causes possibles des crises de croissance que vivaient les startups. C'est que la croissance, elle génère des besoins de financement, hein. Donc en investissement, c'est ce que j'ai déjà développé. Par ailleurs, pour vous rappeler des bons souvenirs de comptabilité, hein. Par ailleurs, vous savez que dans la plupart des cas, ça va aussi générer du besoin en fonds de roulement. Pour ceux qui ne viennent pas de gestion, vous direz, regardez ce que c'est que le besoin en fonds de roulement. En tout cas, ce besoin en fonds de roulement augmente avec l'activité. Et il faut mettre du financement en face. Et même si parfois on commence à générer un tout petit peu de capacité d'autofinancement, ça reste très faible, hein. Vous voyez, chez Intel, on fait des pertes de 400 000 dollars la première année, de 1,9 million de dollars la deuxième année, de 1 million de dollars la troisième année, et on devient un peu bénéficiaire, 1 million, mais 1 million, ça couvre même pas les investissements en R&D, hein. Par ailleurs, c'est le moment où ils vont commencer aussi à avoir besoin d'investir industriellement. Et encore, eux, ils génèrent assez vite, hein, la capacité d'autofinancement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça va leur éviter d'avoir à faire une série de tours de table comme le font les startups. Et là où c'est dangereux, c'est qu'évidemment, il peut y avoir un moment où les investisseurs commencent à se méfier, ne suivent plus. Et là, tout s'arrête. Et je ne sais pas si vous suivez un peu l'activité des startups, ce serait assez logique, votre choix de formation. Vous avez peut-être vu qu'une des startups vedettes de la French Tech, hein, et qui est d'ailleurs issue, enfin, qui a été créée par des diplômés d'une école de l'université Paris-Saclay, AgroParisTech, INSECT, c'est mise en situation de faillite. Là, ils sont dans la première phase, hein, où on étudie la situation. Ils sont pas encore en cessation de paiement. Et vous avez, il y a plusieurs stades, hein, dans le. Mais voilà, ils sont rentrés dans un stade où ils ont saisi un tribunal pour rentrer dans un processus qui pourrait aller jusqu'à la liquidation. On n'en est pas là. Hein. On peut trouver des arrangements avec des créanciers, parce qu'ils ont quand même un tout petit peu de dettes, mais c'est surtout que ils avaient construit une usine pilote qui fonctionne, et puis ils ont le stade d'après, donc ça. C'est typique de ce que j'étais en train d'indiquer. Le stade d'après, c'est de faire une grosse usine qui coûte beaucoup plus cher. Et le problème, c'est qu'ils ont pris du retard dans la construction de l'usine en question. Donc pour l'instant, du coup, il n'y a quasiment pas de chiffre d'affaires puisque l'usine qui va enfin permettre de fabriquer des mouches en très grande quantité, eh bien, n'est pas encore opérationnelle. Et en même temps, en plus, généralement, quand vous avez un dépassement de délai, sur un chantier, parce que là c'est un chantier, vous avez aussi un dépassement de budget. Et donc ils ont besoin d'argent à la fois pour continuer à payer leurs salariés pendant ce temps-là, hein, pour continuer à faire du développement technologique, et en même temps pour finir leur usine. Donc, et là pour l'instant, les financeurs ne veulent plus remettre au pot, apparemment. Donc, ils sont en situation assez grave. Je ne détaille pas pour l'instant, hein, mais c'est cette succession de tours de table qui fait qu'on a des levées de fonds dites d'amorçage. Souvent, c'est quelques dizaines de milliers à quelques centaines de milliers d'euros. Puis ensuite, ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, série A, série B, série C, les sommes que je mets. J'ai pas remis typiquement à chaque fois, mais il faut bien lire typiquement à chaque fois. Donc ne soyez pas étonnés si un jour vous lisez telle entreprise vient de boucler une série A à 25 millions d'euros, ça arrive. C'est pas forcément dans la fourchette de 1 à 5. C'est le plus souvent dans la fourchette de 1 à 5. Mais ça, on réétudiera ça un peu plus en détail, alors même. Quelque part un peu plusieurs fois, parce que c'est quand même un élément très important d'une formation sur l'entrepreneuriat et le management de projets innovants. Donc dans l'introduction au cours sur la gestion d'un projet innovant au XXIe siècle, j'irai un peu plus loin pour détailler un petit peu quel type d'investisseur, qu'est-ce qu'attendent les investisseurs, comment ça fonctionne, comment fonctionne la dilution, la
Excusez-moi, c'est un quart d'heure, vous n'avez
valorisation.
pas une dépassée.
Un quart d'heure?
Normalement, c'est jusqu'à 19h.
Oui,
Ok,
c'est
quelle
jusqu'à
heure?
19 h.
Moins quart. Ah, excusez-moi.
Oui, a priori, je ne vais pas trop dépasser. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison, a priori. Donc, on devrait finir autour de 19 h. Oui, ce que j'étais en train de dire. Tac, tac. Donc, on y reviendra. Là, pour l'instant, je laisse juste ça pour que vous ayez déjà ça en tête. Mais on verra ça plus en détail et on évoquera justement ces questions de valorisation, de dilution, de quel type d'acteur rentre à quel moment et pourquoi, quel est l'intérêt d'un fonds d'investissement par rapport à un business angel et vice-versa. Et qui sait, peut-être que d'ici là, le fonds d'amorçage de l'université Paris-Saclay aura peut-être enfin bouclé son tour de table à lui, puisque un fonds d'investissement doit aussi boucler des tours de table. Parce qu'on a un beau projet qui était presque bouclé le premier tour de table, mais voilà, il manquait encore je sais plus, 1,5 million, quelque chose comme ça. Voilà pour l'instant pour le financement. Et donc, encore une fois, c'est une thématique qui reviendra, hein. Je ne considère pas qu'elle est réglée pour de bon. Et vous aurez en plus, dans les conférences que vous aurez par la suite, la question des financements sera également réabordée. Parce qu'encore une fois, hein, ce n'est pas l'idée de faire du répétitif, mais c'est parce que c'est un thème forcément central compte tenu de ce qu'on vient d'évoquer. Alors, ceci étant, et ça va nous servir de transition, parfois les startups essayent de générer quand même de l'argent avant même d'avoir lancé leur premier produit. Alors, comment on peut faire ça? Comment dire, je vais passer assez vite sur le fait que bah, dans beaucoup de pays, on est conscient que les innovations sont très risquées, trop risquées pour les modes de financement traditionnels et que c'est parfois difficile de réunir les fonds en amorçage. Et donc, il y a dans les pays qui en ont les moyens des systèmes d'aide à l'innovation. Donc, ça peut être ce type d'argent-là qu'on va aller chercher en complément, hein. Je ne rentre pas dans les détails à ce stade-là, mais vous aurez l'occasion là aussi de revenir sur les financements proposés par la BPI, qui peuvent prendre différentes formes même, hein, les prêts d'honneur qui sont proposés par des réseaux comme le réseau Entreprendre. Par exemple, il y a deux anciens du master qui, là, m'ont fait savoir qu'ils avaient obtenu un prêt d'honneur de 60 000 euros pour lancer leur start-up. Vous voyez, donc ça peut permettre d'obtenir des sommes de cet ordre de grandeur-là. Mais une autre possibilité, à chaque fois j'oublie. À chaque fois j'oublie de le rajouter. J'oublie un autre élément qui est quand même très intéressant et important. Il arrive aussi parfois qu'on parvienne à faire financer par des clients potentiels une expérimentation. Enfin, c'est un peu ce que parvient à faire Intel avec Honeywell, hein, et c'est sa toute première mémoire. J'ai pas les détails, mais tel que j'ai pu le lire ou que c'était présenté, on a vraiment l'impression que c'était plus un mode expérimental où Honeywell paye pour voir que sur un mode Honeywell va équiper ses ordinateurs de mémoire Intel à 64 bits. Vous voyez au
D'accord.
passage qu'au début, la quantité présente sur ce type de puce mémoire était quand même relativement limitée, hein. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués au mode. Donc ça veut dire qu'il y a 8 octets sur une puce mémoire de ce type-là. Vous savez, même si vous n'êtes pas très très familier vous savez par exemple que la mémoire de votre ordinateur, elle est comptée en gigaoctets, donc en milliards d'octets. Donc ça vous donne une petite idée de la différence de capacité. Ah, il y a deux participants qui ont levé la main. Pardon, je vous avais pas vu.
Moi j'ai une question. Quand vous dites financer une expertise, ça peut être aussi dans le sens financer un POC, par exemple?
C'est bien parce que vous faites en gros la liaison entre les deux éléments, c'est-à-dire que si une entreprise vous finance un POC, c'est généralement justement dans ce que j'ai pas écrit. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans l'optique je paye pour voir. D'ailleurs, Honeywell avait en fait lancé une sorte de concours, hein. Je pense que c'est dans ce cadre-là que se situe sa première mémoire, et il était prêt à payer, je ne sais plus, je sais, je me souviens plus de la somme, mais c'était 120 000 dollars, je crois, à l'entreprise qui parvenait à mettre au point une mémoire fonctionnelle. Donc là, effectivement, on est dans cette logique de je vous finance votre preuve de concept. On va voir que ce n'est pas tout à fait ce que je vais développer par la suite. Mais c'est pour ça que je fais cette petite parenthèse pour dire, au passage, le mode de financement, justement, du type un client me finance une preuve de concept, c'est un excellent mode de financement. Un excellent mode de financement parce que ça vous fait avancer sur votre projet. Parce que ça le crédibilise, parce que derrière, vous pouvez dire, j'ai un partenariat avec telle entreprise, et donc c'est plutôt tout bénéfice. Alors, sauf s'il exige des clauses d'exclusivité trop contraignantes. Hein, comme toujours en stratégie ou au management, il y a rarement des choses qui n'ont vraiment que des avantages, mais c'est souvent des très belles opportunités. Et puis, il y avait une deuxième main levée.
Et est-ce que, désolé de
Non, non,
revenir.
allez-y, continuez. D'ailleurs, j'allais dire en même temps, j'étais en train de me dire en même temps, je n'ai pas demandé si la réponse vous suffisait. Donc, au contraire, continuez, c'est bien.
Non, c'était clair. Et juste sur la partie apport et subvention, etc., les prêts,
Oui.
est-ce que je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais les business angels,
Oui.
c'est aussi considéré comme un. Enfin, comment, parce que là, vous parlez d'apport en capital, subvention, prêt d'honneur, mais comment sont considérés les business angels?
Alors,
Ou
c'est
les
une forme
angels
d'apport en
investors?
capital, mais qui rentre dans ce que je disais avant, c'est les financements classiques, hein, des tours de table. En fait, ils vont se financer, ils vont se comporter comme si c'était des mini-fonds d'investissement, les business angels. Donc,
D'accord.
ils vont réellement devenir actionnaires de l'entreprise et ça va, ils vont fonctionner comme un fonds d'investissement. D'ailleurs, parfois, ils se syndiquent, hein, ils se mettent à 4 ou 5 pour mettre un ticket, comme on dit, un peu plus important. Et pour répondre à votre question, si vous voulez vraiment parler en bon français, la traduction est investisseur providentiel. Mais en fait, dans les milieux entrepreneuriaux, tout le monde dit business angels, hein. Donc, voilà, c'est pas. D'ailleurs, même la première fois que j'avais lu ça dans un travail d'étudiant, investisseur providentiel, je connaissais, mais il y avait la personne qui disait une petite variante. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Dans un premier temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, voyez? Donc voilà, vous pouvez dire business angels, il n'y a pas de souci.
Merci.
Et donc, c'était Jonas, le deuxième.
Oui, je voulais savoir, dans les financements complémentaires, est-ce qu'on peut faire du crowdfunding après avoir créé sa société?
Oui, vous pouvez faire du crowdfunding après
Ok,
avoir
on
créé
peut
votre
continuer.
société. Oui, tout à fait.
Ok,
Et
super.
effectivement, ça fait partie des modes de financement que je ne développe pas là pour l'instant, mais qui fait partie des alternatives à considérer, notamment si vous êtes sur du marché B2C.
OK.
Donc là, le point que j'allais développer, c'est plutôt le fait de vendre l'expertise. Parce que vous voyez, vous avez une équipe de 40 puis 160 personnes, parmi lesquelles devait y avoir 80% d'ingénieurs ou de scientifiques de haut niveau. Et donc, bah forcément, Intel, pour mener à bien son projet, a réuni une expertise assez extraordinaire on peut très bien avoir une demande à un moment donné d'une entreprise pour mener à bien une étude, au sens de ce que peut faire un bureau d'études, hein, particulière pour développer un produit, un composant, etc. Et c'est là, ici, c'est plutôt dans ce sens-là que je parle de valoriser l'expertise de l'équipe. Parce que ça a un inconvénient par rapport à faire financer sa POC par un client potentiel. C'est que si on le fait trop, enfin le temps qu'on va passer à travailler sur cette demande qui est annexe, hein, qui n'est pas liée directement à notre projet à nous, bah évidemment c'est du temps quelque part qui est un peu du temps perdu pour notre projet principal. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que en plus si on a bien mené sa première mission de ce type-là, a bien Eh ben, après, on peut se créer une petite réputation qui fait qu'on est sollicité pour une deuxième étude, une troisième, etc. Puis on finit par devenir une sorte de bureau d'études, hein, en fait, et on consacre plus que 20-30% de notre temps à ce qu'était notre projet d'origine. Donc il faut faire attention à trouver le bon équilibre entre, d'un côté, ce type de contrat annexe, ça fait rentrer un peu d'argent. Le fait de faire rentrer de l'argent, ça diminue les besoins de financement. Et puis ça peut rassurer aussi un peu des investisseurs qui seraient pris un peu de doute sur votre projet. Ils voient que vous faites rentrer de l'argent, même alors même que vous n'avez pas lancé votre produit. C'est plutôt rassurant, hein. Et puis ça peut augmenter votre crédibilité. Mais voilà, ça, l'inconvénient de détourner des ressources de votre projet principal. Et en l'occurrence, dans le cas d'Intel, eux, leur projet principal, ils le mènent à bien. Alors, c'est jamais fini, hein, parce que vous vous doutez bien qu'on est au tout début et qu'ils se disent que il va falloir améliorer très très vite leur produit d'origine. Hein. Mais donc, ils arrivent à mettre sur le marché cette fois une mémoire toujours Schottky bipolaire de 256 bits, c'est-à-dire déjà 4 fois plus que leur POC de tout à l'heure. Et puis, enfin, grâce d'ailleurs à une intervention de Gordon Moore, apparemment, ils arrivent à surmonter les problèmes de fabrication du procédé MOS. Et du coup, ils arrivent à mettre sur le marché cette fois une mémoire d'un kilobit, donc encore 4 fois plus, dès 1970 sur le marché. Du coup, c'est pas 0,6, mais 0,4 millions en 1969. Et puis, du coup, ça augmente rapidement. Oui, voilà, ça, c'est pour des questions d'arrondi, le 4 au lieu de 4,2. Donc, quelque part, on pourrait se dire, c'est une start-up qui ne va pas avoir tant de besoins de financement complémentaire que ça. Mais vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure, hein, en 1970 par exemple, on fait encore des pertes. Et en 1971, on fait 1 million de bénéfices, qui est un petit peu juste pour répondre aux besoins de financement de l'entreprise. Et alors du coup, et on s'arrêtera là pour. Enfin, on s'arrêtera là. Je vous décris ce qui va se passer et puis après, j'ai promis de pas trop dépasser, donc je dépasserai pas trop. En 71, donc alors que les mémoires sont déjà, qu'ils vendent déjà des mémoires à semi-conducteurs, donc ils vendent le produit pour lequel ils avaient été créés, eh bien il y a un fabricant japonais de calculatrices qui les contacte. Et qui leur demande s'ils pouvaient concevoir des puces électroniques spécialisées dans les différentes opérations hein, qu'ils ont l'intention de mettre en œuvre sur leur calculatrice électronique. C'est le moment où commencent à apparaître les calculatrices électroniques de poche. Vous avez eu ça pour le bac. Hein. Vous avez peut-être encore ça des fois pour. Certains des examens, enfin vous n'aurez pas d'examen sur table dans votre M2, donc voilà, a priori vous n'aurez pas forcément besoin de calculatrice de ce type-là. Bref, et il y a un des ingénieurs d'Intel qui se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme dans les processeurs des ordinateurs? Est-ce qu'on pourrait pas en fait faire une seule puce programmable qui serait capable de faire toutes les fonctions qui étaient prévues pour les 12 puces différentes qu'on nous a demandé de concevoir? Donc il présente le projet, ses supérieurs hiérarchiques chez Intel disent OK, on présente la proposition à Busicom, et Busicom, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont pas emballés. Et ils disent, ben, nous restons quand même plutôt sur notre commande d'origine. Seulement, voilà, l'innovation vient souvent de personnes déviantes. Alors, avec la complicité un peu des dirigeants d'Intel, en l'occurrence, hein, à la complicité aussi d'un des ingénieurs de Busicom qui va les aider. Donc, vous voyez, hein, quand je dis parfois l'innovation vient de petites désobéissances, donc les ingénieurs de chez Intel désobéissent à Busicom, et il y a même un des ingénieurs de chez Busicom qui désobéit à ses supérieurs, et ils travaillent sur cette petite puce qui aurait les mêmes fonctions qu'un processeur dans un ordinateur. Hein. En quelques mois, avec des difficultés, ils arrivent à créer ce tout petit processeur, hein, qu'on va donc, vous l'avez deviné, appeler un microprocesseur. Hein, donc, ils vont combiner en gros les technologies qu'ils utilisent pour les mémoires de gravure sur du silicium, à la logique de fonctionnement d'un processeur d'ordinateur, pour obtenir ce magnifique microprocesseur qui contenait 2300 transistors. C'est déjà pas mal sur un petit. Voilà. Mais bon, ça fera sourire ceux qui connaissent le nombre de composants d'un microprocesseur d'aujourd'hui. Hein. Et il pouvait traiter à peu près 60 000 instructions à la seconde, ce qui pouvait être considéré comme un exploit par rapport à la taille de l'appareil, puisque par exemple c'était la puissance qu'avait en 1946 le premier calculateur électronique qui lui faisait tenait sur 160 mètres carrés et pesait 30 tonnes. C'est déjà un joli exploit. Néanmoins, le problème qui va se poser à eux, c'est que c'est pas assez puissant pour les ordinateurs de l'époque. Donc on va pas pouvoir les utiliser dans les ordinateurs. Finalement, bah, comme ça marche, Busicom accepte, hein, et leur valide la commande. Et donc Intel va fabriquer sa puce qui va s'appeler Intel 4004 pour Busicom. Et puis bah, sur la notamment l'insistance de l'ingénieur qui fameuse personne un peu désobéissante là, mais qui va réussir à convaincre Gordon Moore qu'il y aurait peut-être des applications intéressantes à l'avenir, et que donc bah, ce serait peut-être bien qu'on rachète les droits, parce que comme c'est un contrat de prestation de recherche, en fait c'est Busicom qui est propriétaire de la technologie en quelque sorte. Et donc, en échange d'une baisse du prix, donc qui équivaudra à quelques dizaines de milliers de dollars sacrifiés, hein, Intel va racheter les droits pour tous les marchés hors calculatrice. Alors ça donne pas une valeur extraordinaire, puisqu'à l'époque, on ne sait pas à quoi ça va servir. Hein. Et ça veut dire, et on va s'arrêter là sur cet élément de vocabulaire que l'on définira demain, sur le fait que on se retrouve dans une situation un peu originale, puisque habituellement on oppose les innovations market pull aux innovations techno push, et là on se retrouve avec une innovation qui était market pull, puisque c'était une commande de Busicom, à une technologie qui se retrouve dans une logique techno push. Mais on définirait ça, tout ça, demain. Et donc, si vous n'avez pas de questions, bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée.
Merci, bonne soirée.